Quand j'étais adolescent, je me souviens être allé voir Les Dix Commandements, un film à très grand spectacle qui m'avait impressionné, surtout qu'il est basé sur des faits historiques. C'est l'histoire du peuple juif qui avait été mis en esclavage en Égypte et après bien des péripéties quitte le pays sous la conduite de Moïse. Presque 5 siècles auparavant, et alors que pas un seul hébreu n'existait, l'Éternel, s'adressant à Abraham, lui a prophétisé ces événements. Je continue à lire dans le chapitre 15 de la Genèse. Sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargés de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la quatrième génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Versets 13 à 16. Les Amoréens sont une branche descendant de Canaan, le petit-fils de Noé. Ils occupaient le pays qui sera plus tard la Palestine et que Dieu va donner à Abraham et donc à Israël. La perte de ce pays par les Cananéens est un jugement divin contre eux. Il aura lieu à la quatrième génération après la naissance d'Isaac, le fils qui va naître à Abraham. L'Éternel accorde donc plus de 400 ans aux Amoréens pour se repentir. Mais seule Rahab, une prostituée, a profité de la patience divine. Des fouilles archéologiques ainsi que la littérature cananéenne découverte sur la côte nord de la Syrie à Ras Shamra ont mis en évidence le caractère particulièrement odieux de certaines pratiques liées à leur religion, comme la prostitution sacrée, la sorcellerie et surtout les sacrifices d'enfants. Je continue. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit: Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Versets 17 à 18. C'est ainsi que l'Éternel s'engage de manière irréversible envers Abraham et sa descendance à leur donner le pays de Canaan. Les Juifs n'ont pas reçu la Palestine en partage parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Pas du tout. C'est purement un acte de bienveillance de la part de l'Éternel à l'égard d'Abraham qui a cru en la promesse qui lui était faite et qui lui a valu d'être déclaré juste. Dieu l'approuva parce qu'il avait adopté une attitude de confiance et de dépendance vis-à-vis de lui. La fin de ce chapitre donne la liste de 10 nations dont les territoires passeront sous domination israélite. Nous voici maintenant arrivés au chapitre 16, un passage bien malheureux dans la vie du patriarche et de sa femme Sarai qui subissent une éclipse de leur foi. Les Écritures racontent comment les choses se sont passées sans essayer d'en arrondir les angles. Je commence à lire. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham: Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Abraham suivit le conseil de sa femme Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Versets 1 à 3. Au Proche-Orient, la stérilité d'une femme était considérée comme une disgrâce, la pire des calamités. voire une punition divine. Ce procédé, qui permettait à une épouse stérile d'avoir des enfants par l'intermédiaire d'une autre femme, est attesté par plusieurs documents archéologiques, notamment le code d'Hammurabi et les tablettes de Nuzi. Aujourd'hui, on fait à peu près pareil. Au lieu d'une servante, c'est un ventre porteur, rémunéré, et au lieu d'une insémination naturelle, elle est artificielle. Rien de très nouveau, donc, sous le soleil. Lors de ces événements, Abraham est âgé de 85 ans et Sarai en a 80. Elle a perdu patience et décide de résoudre son problème par ses propres moyens, malgré la promesse de Dieu. Le problème n'est pas d'ordre moral, mais spirituel. Ils sont humains et donc faillibles. L'épreuve du temps a eu raison d'eux en faisant flancher leur foi. Les conséquences de cette décision seront fort fâcheuses et continuent encore aujourd'hui. Je ne leur jette pas la pierre, parce que c'est dur d'attendre et attendre encore et subir l'usure des années qui passent inexorablement sans que rien n'arrive. Je comprends très bien ce vieux couple qui a essayé d'aider Dieu à réaliser sa promesse. En filigrane, pourtant, leur manque de foi est quelque chose de rassurant, puisque malgré leur faute, ni Dieu ni sa promesse ne vont changer à leur égard. Certes, ils devront subir les conséquences de leur acte, mais Abraham restera un exemple de foi et le père des croyants tout au long des Écritures, ce qui prouve que l'Éternel est un Dieu de grâce, riche en bonté et en sollicitude. Je continue le texte. Abraham s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Versets 4 et 5. Tout se déroule comme prévu et Agar tombe enceinte. Seulement voilà, une postérité étant pour la femme orientale une couronne d'honneur, Agar se sent élevée au-dessus de sa maîtresse et la méprise. Sarai, jalouse et vexée, s'en prend alors à Abraham, qui, on pourrait presque dire, n'y est pour rien dans cette affaire ou pour si peu de choses. Il ne faisait que passer, lui. En réalité, il a eu tort d'accepter la machination de sa femme. Maintenant qu'il a mis le pied dans un nid de guêpes, il récolte ce qu'il a semé, la zizanie. Quant à ses femmes, elles ont toutes deux une attitude pourrie l'une envers l'autre et indirectement vis-à-vis de Dieu, puisque aussi bien la fécondité que la stérilité relèvent de sa souveraineté. L'hostilité entre Sarai et Agar a été transmise à leurs descendances respectives, ce qui est prouvé par les accrochages multiples entre Israël et le monde arabe, ennemi juré des Juifs, ainsi que le problème palestinien insoluble. Je continue. Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert. Il lui demanda, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Versets 6 à 10. Dieu ne s'émeut pas outre mesure de la magouille d'Abraham, comme on le verra. Il faut dire qu'avec les hommes, il a l'habitude. La réponse du patriarche à Sarai montre bien qu'il ne considère pas Agar comme une seconde épouse, mais une servante totalement dépendante de sa maîtresse. Éventuellement, Cette pauvre femme doit s'enfuir, ce qui signifie la mort pour elle et l'enfant qu'elle porte. Survient alors une figure énigmatique qu'on rencontre à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Ce personnage apparaît à la fois identifié à l'Éternel et distinct de lui puisqu'il est son messager. L'ange de l'Éternel parle pour Dieu à la première personne et Agar affirmera que Dieu lui a parlé. Ce n'est pas tout. Plus loin dans la Genèse, il est écrit, et je lis, « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. » Fin de citation. Ce personnage, quelque peu mystérieux, est une manifestation de la deuxième personne de la Trinité. Je finis le chapitre. Puis l'ange ajouta, « Voici que tu attends un enfant. Ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en butte à l'opposition de tous, mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. » Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit ?» Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta le Roi. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ishmaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. Ishmaël signifie « Dieu entend ». Toute sa vie, Agar se souviendra que l'Éternel a entendu son cri et l'a secouru. L'ange lui révéla que son fils serait un homme libre, sauvage et indomptable comme l'âne du désert. C'est une référence à la vie indépendante et fière des Bédouins arabes descendants d'Ishmaël, souvent en guerre avec les sédentaires. Agar fut très surprise de constater que Dieu la voyait et l'avait suivie dans le désert. C'est pour cela qu'elle donna un nom à ce Dieu qui lui avait parlé, l'appelant « C'est toi le Dieu qui me voit ». Les peuples antiques avaient une idée très primitive de la divinité qu'ils ramenaient à un niveau purement humain. À mon avis, nous ne sommes guère plus avancés qu'eux dans la mesure où nous considérons Dieu dans une perspective mercantile, une sorte de papa gâteau assis sur un nuage rose prêt à voler à mon secours. Je fais surtout appel à lui lorsque j'ai besoin d'un coup de main ou quand je veux qu'il me sorte d'un guépier. Le récit de ce chapitre met en relief l'échec cuisant subi par Abraham et Sarai à cause de leur incrédulité. Non seulement Ishmaël ne sera pas l'héritier tant désiré, mais cette initiative malheureuse aboutit à une discorde généralisée et aura des répercussions historiques, comme je l'ai dit. Malgré tout, l'Éternel se montre bienveillant envers cet enfant auquel il promet une nombreuse descendance. Tout au long de sa vie, l'Éternel va soumettre Abraham à une série de 7 épreuves qu'il passe avec succès ou qu'il échoue. La première consista à quitter sa patrie. Bon an, mal an, il a obéi et arrive au pays de Canaan, sa destination finale. Ensuite vient la famine. Mais là, Abraham perd les pédales et s'enfuit en Égypte, d'où il a sans doute ramené Agar. La troisième épreuve furent les difficultés rencontrées avec son neveu Lot. Là, il se montra magnanime et généreux en acceptant les miettes du gâteau tout en faisant confiance à Dieu. La quatrième est l'offre du roi de Sodome de le faire encore plus riche qu'il ne l'est. Mais comme il avait reçu la visite de Melchisédek, il a réalisé que Dieu était avec lui lors de sa confrontation avec la confédération des rois venus de l'Est. Alors, il ne se laisse pas tenter par ce qui brille et l'éphémère et s'en remet à Dieu pour ce qui est des richesses. En cinquième lieu, c'est la patience du couple qui est mise à rude épreuve. Alors là, c'est un cuisant échec. La naissance d'Ismaël va bien compliquer leur vie, celle de leur héritier promis, lorsqu'il viendra, et de ses descendants. Abraham ne sait pas que deux autres épreuves supplémentaires l'attendent encore. Nous arrivons au chapitre 17 de la Genèse, qui est un moment fort, la charnière de la vie d'Abraham. Dieu va renouveler son alliance avec le patriarche, changer son nom et lui confirmer sa promesse d'un pays et d'un fils qui naîtra de Sarai, sa femme légitime. Le mot « alliance » est très important ici puisqu'il va être mentionné 13 fois en 27 versets. Je commence à lire. « Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis l'Éternel Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. » Versets 1 à 2. 13 ans ont passé depuis la naissance d'Ishmaël, et Dieu apparaît à Abraham. À chaque alliance correspond un nom divin. À Noé, Dieu s'était révélé sous le nom d'Élohim, le Créateur des cieux et de la terre. À Abraham, il se révèle sous le nom de El Shaddai, le Tout-Puissant, capable de faire naître un enfant dans des conditions humainement impossibles. En effet, le patriarche a 99 ans et Sarai 89 ans. Ils ont dépassé l'âge de concevoir. Je continue. Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler en disant « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. » Versets 3 et 4. Abraham a la bonne réaction et tombe face contre terre dans une attitude d'adoration. C'est vrai qu'Abraham a eu des centaines de millions de descendants, tant israélites qu'arabes, que par l'intermédiaire d'autres fils encore. Je continue. « Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. » Versets 5 et 6. Dans les Écritures, le changement de nom accompagne l'attribution d'une fonction particulière. Abraham voulait dire « père éminent ». Son nouveau nom, Abraham, a une consonne supplémentaire et signifie « père d'une multitude ». Cette promesse d'une nombreuse descendance est également faite à Sarai, puis renouvelée à Jacob, le petit-fils d'Abraham. Quelle foi n'a-t-il pas fallu au patriarche pour accepter son nouveau nom? Imaginez l'arrivée d'une caravane en route pour l'Égypte. À cette époque, il n'y avait ni auberge, ni restauration rapide, ni service d'accueil. Sans l'hospitalité, personne n'aurait pu se déplacer. Abraham aussi ouvrait tout grand son oasis et sa tente aux voyageurs de passage. Les nomades se présentent et bien sûr, Abraham doit dire qu'il s'appelle « père d'une multitude », le nom que Dieu lui a donné. « Combien d'enfants as-tu donc, mon ami ? » demande-t-il. « Un seul pour l'instant, » répond le patriarche. « Mais Dieu, qui a créé le ciel et la terre, m'a promis une grande postérité. » Froncement de sourcils, porter un nom pareil et n'avoir qu'un enfant, Ishmaël, et d'une servante en plus, ce devait être quelque peu humiliant pour Abraham, surtout au Proche-Orient où la véritable fortune d'un homme se compte en nombre de fils. Je continue le texte. « Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Verset 7. Pour la première fois, cette alliance est qualifiée de « perpétuelle », car l'Éternel sera non seulement son Dieu, mais aussi celui de ses descendants, et ceci pour toujours. Cet aspect central de l'Alliance, « Je serai ton Dieu et celui de ta descendance », est souvent répété dans l'Ancien Testament. Je continue. « Je te donnerai, ainsi qu'à ta descendance, ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité, et je serai le Dieu de ta descendance. » Verset 8. C'est Dieu qui garantit la pérennité de cette alliance. Ce pays n'est pas donné à Israël provisoirement, mais pour toujours. Cela ne veut pas dire que les Israélites ne risquent jamais de le perdre, car effectivement, ils en ont été chassés à plusieurs reprises. Ils furent en captivité en Égypte, puis à Babylone, puis ce fut la diaspora en l'an 70 de notre ère, après qu'ils furent massacrés par les Romains à cause du rejet de leur Messie, Jésus-Christ. Certes, ils ont commencé à retourner en Israël lors de la création de l'État hébreu en 1948, mais c'est à la fin des temps que ce pays leur appartiendra dans sa totalité, car Dieu l'a promis à Abraham. En cours de route, les Juifs y habiteront en pointillés, en fonction de leur obéissance à Dieu, mais éventuellement, la promesse que l'Éternel a faite s'accomplira. Et aujourd'hui, elle tient toujours, bien que les Juifs aient rejeté leur Messie et soient devenus, pour la plupart d'entre eux, des citoyens entièrement sécularisés et une nation païenne. Le comportement des hommes n'affecte en rien le cours des choses décidées par Dieu. Il est souverain dans son univers et fait comme ça lui plaît. Et qui peut s'opposer à lui ?